nous allons bientôt changer d'année. Alors, moi personnellement, changer d'année, ça ne me fait pas grand-chose. Si ce n'est que, parce que c'est un changement de calendrier, hein, mais malgré tout, quand on réfléchit parfois à notre vie, qu'on porte un regard sur les choses, on a tendance à penser en années. Moi, je sais que 1967, c'est l'année de ma naissance. Bon, je ne sais pas grand-chose d'autre de cette année. Mais voilà, en quelle année nous avons fait ceci? En quelle année tel événement s'est produit? Et souvent, ce changement d'année, c'est aussi l'occasion de faire un peu le point, de nous tourner vers le passé et de nous dire, tiens, ben voilà, cette année a été comme ceci, comme cela. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire des projets. Changement d'année, je suis sûr que les salles de gym là vont se remplir comme cadeau de Noël. Salles de gym, en janvier, février, il y a plein de monde dans les salles de gym. Et puis, au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, le projet de se remettre en forme disparaît un peu. Il y a des tas de choses comme ça qui commencent en début d'année. Et un certain nombre de personnes, justement, veulent profiter du changement d'année pour commencer quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose de nouveau, donner une nouvelle orientation dans leur vie. Et un certain nombre de personnes vont même jusqu'à prendre des résolutions. Ah, ça voilà, ils y croient, ils prennent une ferme décision. Pour 2013, je prends ceci comme résolution. Et puis il y en a d'autres, parfois, qui renoncent à le faire, et entre autres parce que ben, des résolutions, nous en avons pris un certain nombre, et puis ils n'y se sont pas tenus, et ils n'osent plus en prendre. Et ça devient parfois simplement plutôt un projet, un souhait. Est-ce que vous avez des projets pour cette nouvelle année, cette année qui va bientôt commencer? Parce que je pense que Dieu aimerait que chacun d'entre nous ait des projets. Mais pas n'importe quel projet, bien sûr, de bons projets, des projets qui viennent de lui. Aussi, je vous invite à ouvrir maintenant vos Bibles dans le livre de Jacques au chapitre 4. Si vous n'avez pas dit, vous pouvez en emprunter. Et si vous avez une Bible de cette couleur, c'est à la page 798. Parce que nous allons justement lire un passage où il est question de projet. Mais avant de lire ce passage, nous allons un petit peu regarder le contexte. Déjà, ce texte vient du livre de Jacques. Alors pourquoi Jacques? En fait, le livre s'appelle Jacques parce que le tout premier verset de ce livre dit ceci. Donc tout ce qui était écrit a été écrit de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le livre s'appelle donc Jacques, du nom de l'auteur. Mais alors reste à se poser la question de quel Jacques? Et en fait, Jacques était un prénom courant hein, à l'époque, et le Nouveau Testament nous en cite quatre. Il y avait d'abord un des apôtres, Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean, et c'était un des disciples les plus proches de Jésus. Voilà quelqu'un qui connaissait bien Jésus. Mais ça ne peut pas être lui, parce que le livre des Actes nous rappelle que Jacques a été exécuté très tôt par les autorités romaines. Il y a d'autres Jacques. Il y avait d'ailleurs un autre apôtre, Jacques, fils d'Alphée, celui-ci. Mais on ne sait rien d'autre de lui que son nom, que son prénom. Il y avait aussi Jacques, père de Jude, également un autre apôtre. Pareil, on ne sait rien. Par contre, il reste un Jacques. Jacques, un des frères de Jésus. Voilà. Et même si nous n'avons pas de certitude absolue, il s'agit probablement de l'auteur de cette lettre. Parce que le simple fait que cette lettre se présente comme étant écrite par Jacques signifie déjà que pour les lecteurs de cette lettre, Jacques était quelqu'un de suffisamment connu pour qu'il n'ait pas besoin de dire Jacques, fils de un tel, maintenant on mettrait notre nom de famille. Mais le simple fait de mettre Jacques donne à cette lettre un poids. Et Jacques écrit, l'auteur de cette lettre, écrit avec autorité. Très souvent, il utilise l'impératif. Et cela correspond bien également à Jacques, le frère du Seigneur, qui rapidement est devenu responsable de l'église de Jérusalem. En plus, une église composée de juifs convertis. Et justement, le verset 1 de, le chapitre 1, verset 1 de la lettre de Jacques, nous dit que les destinataires de cette lettre sont justement des chrétiens d'origine juive qui ont dû s'enfuir d'Israël, probablement à cause des persécutions. Jacques écrit aux 12 tribus dispersées. Probablement donc Jacques, le frère du Seigneur. Et le but de la lettre de Jacques, Jacques est une lettre très pratique, hein, mais quand on la lit, voilà, faut être prêt quelque part à recevoir un certain nombre de choses. Parce que le but de la lettre de Jacques, c'est de secouer les chrétiens afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'hypocrisie religieuse. Et Jacques a pour but de leur enseigner aussi la juste manière de vivre avec Jésus. Il ne suffit pas de se dire chrétien, voilà, si vous vous dites chrétien, voilà comment il faut vivre. Et en particulier, Jacques met en lumière que la véritable foi en Jésus ne consiste pas simplement à dire j'ai la foi, mais à vivre comme Jésus aurait vécu notre place. Un chrétien, une personne née de nouveau, c'est quelqu'un qui met sa foi en pratique. Sa foi doit nécessairement avoir des répercussions dans sa vie. Et Jacques dit entre autres, si la foi ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. La foi est quelque chose qui produit des œuvres, des changements dans notre vie. Et pour illustrer cela, Jacques pointe du doigt différentes attitudes, des choses que nous rencontrons tous. Notre attitude face à la tentation, notre manière de considérer les autres, la façon dont nous parlons, aussi les motivations qui nous amènent à prier, par exemple. Et puis Jacques cible aussi des situations précises, et entre autres, ceux qui font des projets. Et c'est ce que nous allons maintenant lire, Jacques, chapitre 4, les versets 13 à 17. Je projetterai également ces versets que je vais lire maintenant. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il commet un péché. Ce que Dieu veut dénoncer au travers de ce passage, ce n'est pas le fait de faire des projets. De toute éternité, le Seigneur a des projets. Et non seulement il a des projets, mais en plus, il les réalise. Et nous qui sommes ainsi appelés à lui ressembler de plus en plus, nous devrions nous aussi avoir des projets. Ce n'est donc pas le fait d'avoir des projets qui est mauvais et qui serait incompatible avec notre foi en Jésus. Ce qui est en revanche mauvais et incompatible avec notre foi en Jésus, c'est de mettre Dieu en dehors de nos projets. C'est-à-dire d'aborder notre vie chrétienne avec, d'un côté il y a Dieu, et d'un autre côté il y a moi avec mes projets. C'est ma vie, mes projets. Alors tout d'abord, Jacques pointe du doigt que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et tenir Dieu en dehors de nos projets. Si Dieu n'a pas sa place dans nos projets, c'est nos projets sans Dieu, nous devrions nous arrêter comme si nous nous trouvions face à un feu rouge. Parce que nous ne pouvons pas être chrétiens et pourtant mettre Dieu en dehors de nos projets. Comme dire, par exemple, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Ici, Dieu est doublement absent. Il est tout d'abord absent dans ce qui motive le projet. La motivation de ceux qui ont ce projet, c'est uniquement la recherche de leur intérêt personnel. Dieu est absent de leur motivation. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils font ce projet, c'est uniquement pour eux. Et Dieu est également absent de la réalisation du projet. La réussite de ce projet dépend uniquement de la volonté et de la capacité de l'homme à le faire aboutir. Voilà, des fois on fait comme ça des projets, hein. On dit voilà, demain nous irons, nous ferons et nous gagnerons. Jacques souligne à quel point il est fou d'aborder nos projets de cette manière. Nous ne pouvons pas faire n'importe quel projet, des projets que nous avons l'impression de maîtriser. Parce que, quels que soient ces projets-là, même si, voilà, on dit, tout est verrouillé, il n'empêche qu'au bout du compte, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et non seulement nous ne maîtrisons pas les événements, mais nous ne sommes même pas en mesure de maîtriser totalement notre propre vie. Notre vie est si fragile qu'elle est même comparée ici à une vapeur. Une vapeur qui, quoi que l'on fasse, est amenée à disparaître un jour. Qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Jacques souligne à quel point les projets de vie sans Dieu sont fragiles et éphémères. Tenir Dieu en dehors de nos projets est incompatible avec notre foi en Jésus. Parce que si nous faisons des projets sans Dieu, alors nous sommes tombés dans cette hypocrisie religieuse que Jacques dénonce à de multiples reprises dans sa lettre. Pourquoi dire « Jésus est le Seigneur de ma vie, c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux servir » et en même temps faire des projets qui sont uniquement motivés par nos propres intérêts? Pourquoi dire aussi « Dieu est souverain, Dieu est puissant, c'est sa volonté qui s'accomplira » et nous lancer seulement dans des projets dont nous maîtrisons le résultat, ou plutôt que nous avons l'illusion de maîtriser? Si ça, ce sont les projets que nous faisons dans notre vie, alors rien ne nous distingue des projets des non-chrétiens. Parce que Dieu n'a aucune place dans de tels projets. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et faire des projets qui ne tiennent pas compte de Dieu. C'est un non-sens. Soit nous savons que Dieu existe, nous avons confiance en lui et nous nous appuyons sur lui, soit alors nous nous appuyons sur nous, mais dans ces cas-là, cela signifie qu'on ne s'attend pas à ce que Dieu intervienne ou nous guide. Avant de nous lancer dans un projet, quel qu'il soit, posons-nous donc les questions. Qu'est-ce qui motive mon projet? Voilà, j'ai ceci comme projet, mais quelle est ma motivation? Est-ce que j'ai le souci de Dieu, de son honneur, de sa gloire? Ou est-ce que je suis simplement motivé par mon intérêt personnel? Et sur quoi aussi repose la réalisation de ce projet? Est-ce que je compte sur Dieu, que Dieu intervienne, que Dieu bénisse, que Dieu ouvre les portes? Ou est-ce que cela, ça me fait peur et je vais faire un projet où surtout j'évite de dépendre de Dieu? Un projet où je ne vais dépendre que de ce que je maîtrise. Veillons à ce que nos projets, quels qu'ils soient, ne nous éloigne pas de Dieu en le tenant en distance, en le tenant plutôt à distance de notre vie, mais au contraire, mettons Dieu au centre de notre vie, au centre de nos projets. Alors après avoir souligné l'incohérence qu'il y a pour un chrétien à faire des projets sans Dieu, Jacques amène ensuite le lecteur à prendre en compte la volonté de Dieu dans ses projets. Là, c'est nos projets et la volonté de Dieu. Pas seulement nos projets tout seuls, mais nos projets que l'on fait en nous posant la question de la volonté de Dieu. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je vais un peu vite en besogne. Alors là, ce coup-ci, nous faisons toujours des projets, hein, mais en intégrant cette fois-ci que la réussite de ces projets dépendra de la puissance de Dieu et de sa souveraineté. Sa puissance et sa souveraineté sur les divers événements de la vie. Si Dieu le veut, nous vivrons. Et aussi en reconnaissant que Dieu peut à tout moment bénir ou au contraire stopper ce que nous avons entrepris de faire. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Et si Dieu le veut, eh bien, il fera capoter le projet. Il fermera les portes. Il ne fera pas réussir. Alors, là, nous pouvons penser que ça, c'est la vie chrétienne. Que ça, c'est soumettre tous nos projets à la volonté de Dieu. Et nous pouvons croire que si nous agissons ainsi, nous sommes dans le vrai, nous agissons ainsi comme Jésus ferait à notre place. Eh bien non, soumettre tous nos projets à la volonté de Dieu, ce n'est pas encore vivre comme Jésus vivrait à notre place. Alors, il faut quand même reconnaître que c'est déjà un réel progrès, hein, par rapport à ceux qui ne tiennent pas compte du tout de Dieu. Mais ce n'est pas encore l'idéal. C'est un peu comme passer à un feu orange. On n'a pas vraiment commis d'infraction, mais le feu rouge et l'accident de parcours, ne sont pas loin. Attention! Soumettre nos projets à la volonté de Dieu, c'est bien. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à autre chose. Et c'est Jacques qui nous y conduit. Parce qu'en effet, après avoir au verset 16 relevé que l'homme préfère s'enorgueillir plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu, Jacques, comme une conclusion à son passage sur les projets de l'homme, écrit ceci. « Si donc... » Donc il le relie bien à ce qui précède. « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Jacques est en train de dire que nos projets ne peuvent pas simplement se limiter à nous abstenir de faire ce qui est mal. Jacques va plus loin. Notre projet doit être d'accomplir la volonté de Dieu. En faisant de l'accomplissement de la volonté de Dieu notre projet de vie, là nous sommes dans le vrai. Nous ressemblons à Jésus, nous sommes comme devant un feu qui est vert, et là nous pouvons véritablement foncer et aller de l'avant. Jacques nous exhorte à adopter une vie qui est centrée sur Dieu et à abandonner une vie centrée sur nous-mêmes. Ce n'est plus « je fais ma vie, j'ai mes projets, et mes projets, je vais vérifier s'ils sont compatibles ou non avec la volonté de Dieu ». Ce n'est plus ça. Mais c'est « j'ai pour projet de vie d'accomplir la volonté de Dieu ». Parce que accomplir ce que nous savons être la volonté de Dieu, parce que il y a des choses où nous sommes ignorants. Et ce passage ne nous dit pas qu'on doit accomplir toute la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'accomplir ce que nous savons être la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'accomplir ce que nous savons, ce qui est bien et bon aux yeux de Dieu. Et ça, ce n'est pas une option pour quelqu'un qui prétend avoir Jésus pour Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un donc sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, le texte nous dit, il commet un péché. C'est commettre un péché que d'être en mesure de faire ce qui est bien et de ne pas le faire. Et là, nous tombons, si nous ne faisons pas ça, justement, dans cette hypocrisie religieuse, où d'un côté nous appelons Jésus Seigneur, voilà, le Seigneur, celui qui définit ce qui est bien, qui nous dit là où nous devons aller, si nous l'appelons d'un côté Seigneur, mais si nous refusons de le considérer réellement comme le Seigneur de notre vie, en refusant d'accomplir ce que nous savons être, sa volonté. Et ça, je pense qu'on le sait tous. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous n'avons pas envie de vivre, d'avoir une foi hypocrite. Nous avons envie de suivre Jésus. Parce que si jamais l'Esprit de Dieu vit en nous, si nous sommes nés de nouveau, alors nous avons tous en nous ce désir de servir le Seigneur et de l'honorer par nos vies. Ça, c'est ce que nous voulons. Mais le problème vient plutôt souvent que nous ne savons pas toujours comment faire. Et souvent, on aborde notre vie en disant, mais voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Eh bien, le grand projet que Dieu aimerait que chacun de ses enfants poursuive, c'est de faire ce qui est bien à ses yeux. Et ce qui est formidable avec un tel projet, c'est que nous pouvons le réaliser dans tous les domaines de notre vie et dans toutes les situations. Parce que quand on est là, des fois, on peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Des fois, on cherche à concevoir de grands projets. Et parfois, le Seigneur peut nous mettre à cœur de nous lancer dans des grandes choses. Mais bien souvent, ça nous paraît compliqué à mettre en œuvre. Il faut passer par bien des étapes. Il faut investir beaucoup d'énergie là-dedans. Mais le Seigneur nous dit qu'il a un projet particulier pour nous. Et ce projet, pour chacun de nous, c'est de faire ce qui est bien. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut mettre en place immédiatement, quelle que soit sa situation. Nous pouvons, par exemple, chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu au travers de nos pensées. « Ah, Seigneur, je veux soumettre mes pensées. » Et lorsque nos pensées s'égarent, eh bien, nous cherchons à les ramener vers le Seigneur. Nous pouvons chercher à faire ce qui est bien au travers de nos paroles, de nos actes, de nos attitudes. Nous pouvons aussi chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu dans tous les lieux. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour cela. À la maison, au travail, dans des commerces, en voiture, en vélo, à pied. Nous pouvons chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu dans tout ce que nous vivons. Pas simplement lorsque nous sommes à l'église, pas simplement en annonçant le Seigneur à quelqu'un, mais dans tous les domaines de notre vie, mais aussi dans toutes les situations de notre vie. Si nous sommes dans la joie ou dans la peine, que nous sommes en colère ou est-ce que nous sommes inquiets. Il n'y a pas que lorsque nous sommes un chrétien victorieux, avec le sourire jusque-là, que nous pouvons servir le Seigneur. Et nous pouvons aussi chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu avec toutes les personnes. Tout seul, mais aussi auprès de notre conjoint, avec les diverses personnes de notre famille, avec des amis, des collègues, des voisins, avec notre prochain. Et chaque instant de notre vie, dans le projet que Dieu a pour nous, chaque instant de notre vie devient ainsi une opportunité que nous pouvons saisir pour pouvoir honorer Dieu, pour pouvoir refléter sa personne, pour pouvoir témoigner de son amour. Alors je ne sais pas si vous avez des projets pour cette nouvelle année. Et peut-être que vous demandez au Seigneur de vous montrer quel projet il a pour vous. Alors moi, je ne suis pas prophète, mais en m'appuyant sur la parole de Dieu, je peux en tout cas affirmer que le Seigneur aimerait que vous ayez au moins un projet pour cette nouvelle année. Le plus grand de tous les projets, mais aussi un projet extrêmement simple à mettre en œuvre, un projet dans lequel vous pouvez immédiatement vous lancer. Le projet d'accomplir sa volonté, de faire ce qui est bien dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est le merveilleux projet que Dieu vous a confié. Et je dirais même que c'est un projet qui est taillé sur mesure pour vous, parce que personne d'autre que vous ne pourra l'accomplir. Personne d'autre pour vous ne pourra faire que dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos actes, dans vos paroles, vous accomplissiez la volonté de Dieu. Vous reflétiez la personne de Jésus. Je m'incorpore dans tout ce que j'ai dit pour chacun de nous, c'est à chacun de nous que le Seigneur s'adresse, ayons pour projet d'accomplir la volonté de Dieu.